Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mouzimaï, au Kata Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Processus électoral en RDC, à moins de 2 mois des élections générales du 20 décembre 2023. Les doutes subsistent encore aussi bien au sein de l'opposition que de la société civile si l'organisation de ces élections, malgré le degré d'engagement du gouvernement et les efforts consentis par la CENI pour respecter son calendrier électoral, le scepticisme est toujours de mise quant à la tenue effective de ces élections dans les délais constitutionnels. Il y a certains membres de l'opposition de la société civile, en l'occurrence la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'SSC qui émettent de crainte sur la transparence de ces élections du fait des divergences de vues des parties prenantes tout au long du processus électoral en cours. Autre crainte, c'est celle du financement de ces élections. La CENI ne dispose pas encore de tous les moyens nécessaires, mais aussi il y a le retard pris dans le déploiement du matériel électoral. Une certaine opinion s'interroge également sur la sécurisation de ces élections générales de décembre 2023. Que pensez-vous de la transparence du financement et de la sécurisation du processus électoral en cours? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi réagir en direct en composant les 081-890-6330, 081-890-4969. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de Blechina, sur la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Gomombala. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci de nous sauver partout où vous êtes, en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières, sur www.radiocapi.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre ce magazine en direct sur la page Facebook Radio Capi et aussi sur la chaîne YouTube de Radio Capi. Et pour commenter ces sujets sur la transparence, la sécurisation et le financement de ces élections générales de décembre 2023, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre aux auditeurs, notamment à travers cet échange citoyen dans ce magazine et Paroles aux auditeurs. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Merci aussi, si vous voulez intervenir, de composer les 081-890-6330 ou les 081-890-4969. Monsieur le ministre, la RDC vient d'amorcer le dernier virage du processus électoral en cours. On n'en est plus qu'en moins de 2 mois des élections générales de décembre 2023. Mais il apparaît toujours cette crise de confiance entre les différentes parties prenantes, notamment la société civile et l'opposition sur la transparence du processus électoral en cours. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, cette crise de confiance en toi qui persiste?
D'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous m'accordez de discuter avec les auditeurs de la République démocratique du Congo qui suivent Radio Capi. J'aimerais quand même vous donner moins de scepticisme, parce que lorsque je vous écoutais introduire cette émission, c'est comme si rien n'était fait pour garantir justement, pour construire cette transparence. Le processus électoral, il faut que tout le monde le comprenne. Chacun de nous a un rôle. La CENI, de par sa constitution, représente tous les courants politiques. Et la CENI, c'est un organe d'arbitrage. Les lois viennent de l'Assemblée nationale. Les financements et la sécurité viennent du gouvernement. La sensibilisation et les autres tâches viennent de la société civile et il est attendu évidemment des électeurs de s'y mobiliser. Nous, ce que nous nous observons, c'est que la CENI, depuis qu'elle a publié son calendrier, les échéances toutes sont respectées. Malgré toutes les difficultés liées à la complexité du processus, vous avez par exemple 23 ou 28 000 candidats députés nationaux, 49 000 députés provinciaux, candidats députés provinciaux ou 30 000 candidats au municipal, ça vous fait 100 000 candidats. C'est des élections qui sont très laborieuses à construire. Mais vous savez aussi, cher Marcel, que nous sommes à notre quatrième processus électoral. De 2006 à 2023, ça fait 17 ans. Les jeunes n'est pas encore véritablement mature. Donc il faut considérer que nous sommes dans un processus de maturation de notre démocratie. Et vous savez que lorsqu'on parle des élections, cela suscite toujours la passion des hommes politiques et des différentes composantes. Aujourd'hui, vous parliez de la société civile, de l'Église sûrement, mais observez avec moi que l'écuménisme n'existe plus en RDC depuis la désignation de M. Kadima. L'Église catholique, comme l'Église protestante, sûrement, elle est partie frustrée au départ de ce processus électoral. Bon, alors, toutes les positions qui sont prises, est-ce que c'est des positions qui sont prises de manière totalement objective ou est-ce que c'est des positions qui sont prises parce qu'il y a un sentiment de colère? Ce n'est qu'une illustration, on ne remet pas en cause l'engagement de l'Église dans l'accompagnement citoyen du processus, mais c'est pour vous dire que la confiance, ce n'est pas un objectif qu'on atteint simplement parce qu'on est CENI, mais c'est un objectif qu'on doit atteindre avec toutes les parties prenantes. C'est pour ça qu'il y a justement le cadre des concertations, et j'espère que chacun, dans le rôle qui est le sien, apprécie ce qui est fait à juste valeur au niveau de la CENI, pour que le processus qui va se déboucher au 20 décembre prochain puisse déboucher dans la sérénité, pour que le Congolais puisse exprimer leur voix de la manière la plus libre.
C'est justement ça le vœu de tous les Congolais, monsieur le ministre, que ces élections se passent de manière apaisée. Mais vous l'avez dit, nous sommes au quatrième cycle électoral. Il était question, en tout cas pour la plupart des Congolais, que les choses se fassent un peu autrement. Mais on a toujours un peu l'impression qu'il y a toujours cette rengaine, c'est-à-dire cette crise des confiances entre les différents.
Mais les hommes politiques ne changent pas. C'est plus ou moins les mêmes acteurs qui reproduisent les mêmes comportements. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, en observant le travail qui est fait par la CENI, vous allez voir que les échéances sont ténues. J'ai tenu d'ailleurs un briefing avec Madame Bintou Keïta qui a fait le même constat que moi. Ici, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que chaque partie prenante a un rôle à jouer. On va revenir un peu autour du mois de mai ou du mois d'avril, je me souviens plus exactement, lorsque le président de la CENI a commencé à recevoir tous ceux qui se disaient déjà, qui s'annonçaient candidats à l'opposition, le 30 juin, je me souviens bien, il n'y a plus eu démarche. Donc, il y avait tellement des préjugés que lorsque ils ont eu l'occasion de discuter avec le président Kadima, je dirais pas que les nuages se sont totalement dissipés, parce que sur le processus électoral, il est tellement laborieux que nous tous, même gouvernement, nous nous abreuvons au quotidien. Moi qui vous parle de manière régulière, comme je suis porte-parole du gouvernement, je m'informe de l'évolution du processus, je m'interroge si tout le monde a ces réflexes-là, parce que ce n'est qu'en vous informant, ce n'est que pour la CENI, en tout cas, je disais encore au président Kadima à notre dernière conversation, qu'ils doivent faire davantage de sensibilisation, non pas parce qu'il faut changer la position de ceux qui sont de mauvaise foi, mais parce qu'il y a des personnes de bonne foi qui ont besoin d'être informées de manière régulière sur ce qui se passe à la CENI.
Voilà, malgré cette crise de confiance, on l'a remarqué à chaque fois qu'il y a des élections. C'est vrai qu'il y a cette ambiance-là, mais on finit toujours par avoir ces élections. Alors, voilà. Alors dites-nous, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement et à la CENI quant à la tenue effective? Parce qu'il y a une autre question, c'est celle de la tenue de ces élections dans les délais constitutionnels. Mais on a comme l'impression que, c'est vrai, il y a ce décret d'engagement du gouvernement, mais il y a également ce problème de financement. On a suivi, en tout cas moi que j'ai mal compris, mais on a suivi le président Denis Kadima qui disait encore que la CENI n'a pas encore tous les moyens qu'il faut, alors qu'on a à moins de 2 mois de ces élections générales.
Écoutez, peut-être que lui, le président Kadima, doit refaire une interview pour vous dire, en tout cas moi quand je l'entends, il dit que les glissements n'a jamais fait partie de leur vocabulaire. Ça, c'est que moi.
C'est une façon de parler.
J'espère que vous entendez la même chose que moi. J'en viens.
Oui.
Lorsqu'il vous dit que les budgets, c'est 1,1 milliard de la CENI, vous regardez les contextes dans lesquels nous sommes. Mais observez avec moi, cher Marcel, depuis les débuts du processus électoral. Chaque échéance est respectée. Malgré les difficultés qui sont d'ailleurs inhérentes au contexte économique général du pays, la guerre à l'Est, la situation humanitaire, la situation sociale, mais l'engagement de l'organisation des élections, c'est un engagement pris par le gouvernement et les présidents de la République parce que nous voulons consolider la démocratie. Vous ne pouvez pas imaginer le coût de la confiance qu'un peuple doit avoir à ses dirigeants, c'est le coût que nous payons à travers les élections. Et donc pour nous comme gouvernement, j'ai discuté encore hier avec à la fois le ministre des Finances et les présidents de la CENI. Il ne devrait pas y avoir des inquiétudes. On ne devrait pas venir vous dire qu'on a mis tous les 1,1 milliard à la disposition de la CENI pour que vous puissiez être rassurés. Mais nous sommes dans un processus de financement, un processus qui a déjà commencé et qui se déroule plutôt bien. Aujourd'hui, je pense que ceux qui veulent se réfugier sur l'aspect financier pour penser que les élections seront décalées, je pense qu'ils font fausse route.
De là vous entendre, monsieur le ministre, il faut avoir confiance à la CENI et au gouvernement.
Donc, absolument.
Il a lieu d'espérer que les élections vont se tenir.
Mais cher Marcel, je voudrais pas qu'en quittant ces plateaux, je suis pas évidemment la CENI, je suis le gouvernement, mais pour ce qui concerne la responsabilité du gouvernement, nous faisons tout pour que les élections se tiennent au 20 décembre. Et donc, il faut mettre fin à ces scepticismes-là qui risquent de s'émer le doute dans les chefs des Congolais que nous attendons massivement dans les urnes parce qu'il est question pour eux de décider de qui dirigera le Congo d'après le 20 décembre 2023.
Alors, mettre fin au scepticisme, c'est bien dit, mais il y a également sur le terrain. Prenons par exemple du déploiement de kits électoraux, du matériel électoral. On a comme l'impression que, c'est en tout cas là encore, ça piétine.
Écoutez, ça piétine parce que vous n'avez pas les bonnes informations ou ça piétine parce que c'est ce que les gens voudraient ou c'est ce que les gens souhaitent.
Mais à moins de deux mois, monsieur le ministre,
vous avez approché la commission électorale pour savoir si les matériels est en cours de déploiement ou pas? Moi, j'ai approché la CENI. Vous savez d'abord que nous allons utiliser la machine à voter. Vous savez aussi qu'il y avait un stock de machines à voter des scrutins précédents et que tout n'a pas été détruit. Et que donc on partirait de cette base-là pour réconditionner certaines machines. Dans ce que j'ai entendu, cela est déjà fait. Les machines qui doivent certaines venir de Corée sont arrivées. Et d'autres vont arriver. Il ne faut pas oublier que ce sont 75 000 bureaux de vote. Et donc, dans les discussions que j'ai eues avec la CENI, le déploiement du matériel électoral a même déjà commencé. La formation là aussi. Alors, les souhaits ici pour moi, c'est de vous demander, vous, Radio Capi, parce que les scepticismes que nous entendons beaucoup, j'ai été chez vos confrères à vous il y a quelques jours, j'entends le même scepticisme. Je me demande, est-ce que vous, les médias, vous vous intéressez suffisamment aux questions électorales? Parce que moi, je souhaiterais qu'au quotidien maintenant, que Radio Capi regarde dans les antennes, parce que vous êtes partout en RDC, regardez dans les antennes provinciales, est-ce qu'il y a du mouvement ou pas? Peut-être qu'en ce moment-là, on se fera une bonne opinion. Mais moi, dans ce que j'ai entendu de la CENI, le matériel électoral est en cours de déploiement dans les différentes antennes et qu'il ne devrait pas y avoir des inquiétudes par rapport à la date du 20 décembre.
Alors, pour tous ces, s'il faut les appeler comme ça, des prophètes de malheur qui parlent de élections chaotiques simplement parce qu'ils ont comme l'impression que tout ne sera pas prêt et avant le 20 décembre 2023, vous rassurez qu'il n'en est absolument rien.
Écoutez, vous savez, moi j'ai coutume de dire qu'il ne faut pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Lorsque les gens choisissent d'être aveugles alors qu'ils ont des yeux, c'est leur choix. Mais ici, moi j'observe avec vous que j'ai parlé des 17 ans tout à l'heure. Vous savez, les processus, l'organisation des élections partout au monde, c'est jamais un exercice facile, c'est jamais un exercice parfait. Ici, la question est encore plus complexe du fait du défi logistique que cela impose pour la République démocratique. Je parle à la radio onusienne. Il y a évidemment un niveau d'intervention de la MONUSCO dans l'organisation des élections, en tout cas dans les trois provinces qui se trouvent, notamment sur des questions logistiques. Vous avez 100 000 candidats pour toutes les élections. Tout ça est complexe. Vous avez les contextes généraux du pays. Vous avez la situation économique, la situation sécuritaire dans quelques parties du pays. Mais tout ça, c'est des choses qui rentrent en équation. Et nous, nous considérons comme gouvernement que nous faisons notre part pour que cette échéance soit tenue. Alors, certains vont nous dire qu'il faut qu'on ait des élections parfaites. Moi, je vais rigoler parce que récemment à New York, j'ai discuté avec quelques amis américains qui disaient, si vous voulez voir l'exemple des élections qui sont pas parfaites, c'est les élections américaines. J'ai rigolé quand je regardais notre sondage. Mais ici, il faut considérer que nous tous, nous avons un rôle à jouer et que c'est notre vœu à tous, c'est notre contribution à tous qui fera de ces processus un processus succès, à succès différent des processus précédents.
Monsieur le ministre, on va passer la parole aux auditeurs qui sont nombreux, qui aimeraient intervenir. Mais avant de leur accorder la parole à cette question, parlons de dispositions prises pour la sécurisation de ces élections, parce qu'on a toujours remarqué que ce soit lors de précédentes élections, que ce soit pendant la campagne ou le jour du vote même, ou après le vote, il y a souvent de frictions par ici, par là. Est-ce que pour ce qui est de la sécurisation des élections, au niveau du gouvernement, les dispositions, en tout cas, sont déjà prises?
Écoutez, en parlant des sécurités, le point principal sur lequel le gouvernement s'active, c'est que nous voulons que nos compatriotes de Rutshuru, de Massissi et de Kwamut puissent voter. Et donc aujourd'hui, nous mettons tout en place pour nous assurer que ces compatriotes puissent avoir accès au vote. Ça, c'est un aspect important que je tenais à mentionner. Mais sur la sécurisation du processus, il existe un comité pour la sécurisation des élections qui siège. Et d'ailleurs, je siège dans ces comités avec le ministre de l'Intérieur et la CENI. Il y a des réunions qui se sont tenues il y a quelques jours où il avait, par exemple, été décidé, des instructions étaient données au commissaire général de la police pour préparer les équipes de la police. Mais vous savez, la vraie sécurité autour des élections, c'est le comportement de candidats et des électeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut leur parler parce que lorsque vous, candidat, vous allez voter dans quel esprit? Lorsque vous, électeurs, vous y allez et que vous êtes témoin. Parce que vous avez entendu des gens dire, nous allons rester jusqu'à la clôture du fermeture du bureau de vote. C'est comme si les gens redoutaient que quelque chose de mal s'est passé. Eh bien, le président de la République, le jour du dépôt dépôt de son dossier à la CENI, l'a dit, nous aussi, à notre niveau, nos témoins seront là jusqu'au bout. Ça veut dire que ce n'est que de cette manière qu'on va tous nous assurer que le processus est transparent. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra nous tous prévenir toute forme de violence, parce que nous observons quand même que beaucoup semblent se préparer à la contestation plutôt qu'à la participation effective aux élections avec des possibilités de gagner. Mais tous ces scénarios, nous comme gouvernement, nous y travaillons pour avoir les réponses à donner les moments venus.
On revient à vous, monsieur le ministre Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de processus électoral en cours, de la transparence de financement et de la sécurisation avec le ministre de la Communication et des Médias. Si vous voulez intervenir, vous avez la possibilité de nous appeler au 081 890 63 30 ou 081 890 49 69. J'en profite également pour vous signaler que vous pouvez suivre en direct ce magazine sur la page Facebook Radio Capi et sur la chaîne YouTube Radio Capi.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Nous avons déjà trois auditeurs en ligne, Sylvain qui nous appelle depuis Kinshasa, Jacques qui est à Bounia et Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. On y va avec le tout premier Sylvain depuis Kinshasa. Bonjour Sylvain.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous et à tous nos auditeurs de la radio Café.
Bah, Sylvain, merci de nous avoir rejoints dans ce débat citoyen. Nous parlons du processus électoral, notamment pour ce qui est de sa transparence et de son financement et de la sécurisation. Le ministre Patrick Muyaya, qui est notre invité, il a donné des explications par rapport à tout ce qui est en train d'être consenti comme effort, que ce soit du côté du gouvernement que de la CENI, afin que ces élections puissent se tenir dans le délai constitutionnel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au processus électoral en cours?
Oui, à mon avis, monsieur le journaliste, je pense que par rapport à la tenue des élections dans les délais constitutionnels, c'est exactement nous allons avoir des élections dans les délais constitutionnels, d'autant plus que la CENI, qui est l'organe qui organise les élections, s'écoute aux élections dans les délais constitutionnels. Et même le gouvernement qui fait les élections là, s'écoute dans les tenues, quoi. Dans la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Donc là, il n'y a pas que ils sont prêts à organiser.
Mais Sylvain, il y a quelques soucis. Sylvain, s'il vous plaît, il y a quelques soucis avec votre ligne téléphonique. Essayez un peu de vous déplacer, on verra au niveau de la réalisation si on pourra vous rappeler un peu plus tard. Alors on y va à Bounia pour accorder la parole à Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques, vous êtes à Bounia? Et apparemment, il y a quelques soucis avec nos lignes téléphoniques. J'espère que ça va. Jacques, vous m'entendez bien cette fois-ci?
Oui, je vous entends. Je suis pas Bounia, une précision, je suis plutôt à Isangi.
Voilà. Jacques Béfou. On vous écoute, Jacques. Allez-y, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup pour m'avoir associé dans ce débat. Je remercie d'abord l'intervention du ministre qui a essayé de démontrer clairement que les élections vont se passer dans les délais constitutionnels. Mais nous, au vu des contraintes techniques et de la situation sécuritaire à l'est du pays, il y a énormément de doutes sur la tenue des élections à la date prévue. Et à mon avis, organiser les élections à la date du 20 décembre 2023 est sans doute un défi pour le gouvernement congolais de pouvoir prouver à l'opinion publique son intention de respecter la Constitution. Même si jusqu'ici la CENI semble évoluer bien avec son calendrier, mais nous sentons qu'elle camoufle les faiblesses et les irrégularités attachées à ce processus électoral. C'est ça le mal jusqu'à présent. La CENI ne fait pas une déclaration claire et sérieuse quant à l'inquiétude des parties prenantes, notamment...
Mais vous aurez, Jacques, vous aurez aimé que la CENI fasse quel genre de déclaration, par exemple?
Bon, vous savez, jusqu'à présent, le problème des financements, la CENI ne dit pas clairement, et le montant qu'il a reçu, est-ce que ça va? C'est déjà suffisant pour couvrir tout le processus, ou soit il y a encore des choses qu'il faut, parce que les gens doivent déjà se préparer. Vous savez aussi l'état des routes et les transports, tout consomme. Vous connaissez les problèmes des transports aériens pour ces derniers temps. Et avec les routes aussi, la CENI va déployer. Le déploiement ne tient pas jusqu'à présent, on ne sait pas. Et les niveaux, ces processus, on a déjà quatre cycles aujourd'hui. On sait comment est-ce que le déploiement, ça se passe avec trop de cascades dans notre pays. Mais jusqu'à présent, on ne sait même pas si ce déploiement, c'est à quel niveau. Parce que l'état des routes et l'insuffisance des moyens de transport, et ce sont des choses que la CENI devrait quand même éclairer les gens pour qu'on soit réellement fixé par rapport à la tenue des élections. En outre, la situation sécuritaire dans notre pays est telle que si elle demeure ainsi, beaucoup de citoyens dans plusieurs territoires ou villes du pays n'auront jamais la possibilité de participer à ce vote à cause de la sécurité des massacres qui sévissent et à l'est du pays. Je vous annonce aussi ici, à Kisangani par exemple, il y a des situations terribles à Lubumba, où on sent que vraiment avec ce climat ici de sécurité, et les gens ne peuvent pas aller aux élections comme ça. On comprend bien l'attitude du pouvoir en place, c'est de refuser de dépasser les délais constitutionnels par la crainte de l'échec, parce que ça sera un échec pour eux de ne pas organiser les élections au délai constitutionnel, et par le refus d'aller en transition, qui serait une possibilité pour les opposants et d'autres acteurs de gérer avec cette étape-là.
Voilà, Jacques, si je vous comprends bien, vous êtes d'accord avec les efforts consentis par le gouvernement, même la CENI. Vous avez dit qu'il jusque-là essaie de respecter son calendrier électoral, mais par rapport à certaines contraintes électorales au vu de cycles électoraux déjà précédents, vous pensez que, j'avais même posé également la question au ministre, apparemment, la CENI traîne encore les pieds, mais le ministre a confirmé que la CENI a déjà commencé à déployer son matériel électoral, mais le ministre est bel et bien là, il pourra réagir parce que le plus important dans cet échange, c'est pour essayer entre le ministre de la communication et des médias et qui est porte-parole du gouvernement et vous, nous les Congolais et surtout nos auditeurs, d'essayer de porter certains éclairages sur certaines zones d'ombre en vue, en tout cas, de dissiper tout malentendu sur ces positions électorales dont on veut tous qui se passent de manière apaisée. Voilà, merci Jacques depuis Isangi, vous avez dit. Alors, on va aller à Vienne pour retrouver Franck. Bonjour Franck.
Bonjour notre frère Marcel. Bonjour à son excellence Monsieur le ministre. Bonjour à vous tous au studio et aussi à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole Franck.
Oui, merci beaucoup. Je dois commencer par remercier son excellence pour sa disponibilité de nous fournir des explications et des détails dont nous avons besoin. Et c'est l'aspiration commune de tout Congolais. C'est notre désir de voir les élections se tenir dans les délais constitutionnels et pas n'importe quelle élection, les élections vraiment transparentes qui ne nous apporteraient que de la paix. Mais seulement si nous devons peut-être nous mettre à comparer les processus de 2018, de 2011 et de 2006, il y a quelquefois des questions qui restent encore ouvertes et qui nécessiteraient aussi vraiment des réponses assez directes parce que c'est comme si la RDC a changé de dimension, c'est comme si la RDC n'a plus ses 2 millions de kilomètres carrés. Et c'est comme si pour faire le déploiement cette fois-ci avec la CENI de 2023, ce qui se faisait en 3 mois, en 2 mois et demi, peut se faire en moins de 2 mois. Et le plus grand problème, c'est que quand on suit les explications techniques des membres du bureau de la CENI, des membres du gouvernement, tout le monde rassure, mais nous autres, on est parfois sur place, on voit, on évalue, et c'est comme ça qu'on arrive à émettre certains doutes. Nous sommes à 2 mois des élections. Et à 2 mois des élections, il y a encore un problème des listes définitives. Les listes définitives ne sont pas encore connues et on va peut-être les publier à un jour du début de la campagne électorale. Mais s'il y a maintenant des gens qui sont recalés, le temps qu'ils vont présenter leurs réclamations, le temps de traiter ces réclamations-là, est-ce qu'on est en train de peser des conséquences que cela peut entraîner au niveau de l'équilibre intégratif du pays? Nous savons pour le moment que les pays ne disposent d'aucun appareil, d'aucun avion qui pourrait assurer le déploiement dans tous les coins de la République. Et la MONUSCO qui nous prêtait main forte, on sait dans quel état elle se trouve. Et personnellement, moi, je me demande si je suis ce qui se dit au niveau de Kinshasa et si je dois me mettre à comparer avec ce qui se vit à l'intérieur, je ne sais pas si on a la même réalité en face de nous. Parce que déjà, dans certains points, je l'avais dénoncé la semaine passée, dans certains points, il y a des bureaux de vote, des bureaux d'enrôlement qui ont dit qu'ils ont perdu toutes les données. Je vous dis bien toutes les données. Peut-être je dois m'abstenir pour donner le nom de la ville, mais si je dois le dire, il y en a qui vont dire qu'ils nous ont accusés. Donc, il y a encore autant de problèmes techniques au niveau de l'administration même qui posent encore problème. Il y a des gens qui ont perdu des cartes d'électeurs. Ils attendent 2 mois, 3 mois pour obtenir un duplicata et parfois on leur exige de payer quelque chose. Les listes définitives ne sont pas encore connues sur place avec l'étendue de notre pays. Donc, on ne voit pas encore cet engouement-là. Et il y a aussi un problème épineux de finances. Donc, on n'a pas encore financé l'intégralité du processus et on va le faire à 1 mois, on va le faire à 2 mois. Et quand il faut sortir des millions, pour la CENI, c'est pas quand même 1 million, 2 millions, c'est autant de millions. Et personnellement, je trouve que quand il y a des inquiétudes qui sont présentées, c'est en connaissance de cause. C'est parce que les gens se rendent compte que à Kinshasa, il y a des garanties qui se donnent. À Kinshasa, il y a des certitudes qui s'expriment. Mais sur place, quand on est en dehors de Kinshasa, dans certains points du pays, donc on se rend compte que rien n'est encore prêt.
Alors Franck, si je vous comprends bien, donc d'après vous, vous avez comme l'impression que les choses risquent de se passer dans la précipitation parce que vous avez eu à faire le constat selon lequel lors de cycles électoraux précédents, pour ce qui est par exemple du déploiement du matériel, cela se fait en tout cas trois mois avant et vous pensez que pour Kinshasa, les choses peuvent bien marcher, mais pour ce qui est de l'intérieur du pays, il y aura peut-être certaines contraintes qui pourront faire que tout ne se passe pas dans de bonnes conditions. Merci Franck d'avoir réagi depuis Vienne. On va revenir à Kinshasa et accorder la parole à Dieudonné Tshilombo. Bonjour Dieudonné. Dieudonné, vous êtes en ligne depuis Kinshasa?
Oui, je suis en ligne déjà.
Alors, vous écoutez, Dieudonné, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour nous avoir associés dans cette émission. Bon, en dehors des hypothèses émises, monsieur le journaliste, il est encore important de confirmer la non-tenue des élections concernant la date et aussi la loi électorale qui précise que les élections sont tenues pendant les jours fériés. Mais nous remarquons que les élections qui sont programmées en décembre, ça sera tenu un certain mercredi. Et avec ça, monsieur le journaliste, des questions se posent toujours. Qui va accepter de s'absenter au travail ou bien dans le cas des étudiants et des élèves qui auront la chance et qui sont éligibles à voter? Qui vont accepter de s'absenter pour aller voter? Et avec cela, nous remarquons que ce que le ministre vous dit dans les studios, que non, parfois vous n'avez pas les informations, le déploiement a déjà commencé. Mais je ne trouve pas que c'est normal, ou bien c'est théorique, ou bien c'est pratique, qu'il nous précise quand même, parce que nous sommes sur le terrain, nous observons, nous sommes à l'aïe de tout ce qui se passe à la CENI. Il n'y a aucune activité qui se réalise sur le terrain. Les machines, parfois, ils sont non contrôlés. Les machines de l'année passée, de 2018, on ne les contrôle même pas. Aucune activité n'est sur terrain, monsieur le journaliste. Je ne trouve pas qu'il y aura les élections le 20 décembre. Il y aura toujours.
Donc vous continuez à rester pessimiste, hein, malgré les explications du ministre de la communication des médias. Pour vous, vous attendez de voir réellement sur le terrain les déploiements de tous ces matériels. Et vous avez aussi parlé de cette date de 20 décembre 2023 qui est un mercredi. Vous pensez que c'est un jour de travail qui ne va pas permettre aux gens d'aller voter, mais certainement ça sera un jour férié pour permettre aux gens d'aller voter. Merci à Dieudonné depuis Kinshasa. On va prendre Tagamile depuis Bounia, puis on va revenir à notre invité, le ministre Patrick Muyaya. Tagamile, vous nous appelez depuis Bounia. Bonjour Tagamile.
Bonjour à m'associer et juste à ce niveau de débat. Je salue aussi la présence du ministre de la communication qui est là. Et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Alors, merci beaucoup. Je salue d'abord toutes les premières interventions du ministre, soi-disant que chacun a une part des choses à faire pendant ce processus électoral. Mais il tient d'abord de signaler que le président de la CENI lui-même, Denis Kadima, a rassuré, et venait même à peine de rassurer, par les interviews apportées, que la tenue des élections libres, transparentes et inclusives sont vraiment garanties d'ici le 20 décembre prochain. Et cela étant même la volonté du président de la République qui a toujours prôné ce respect des échéances et du délai constitutionnel. Alors, moi, je pense que la population, soit la société civile, le parti prenant, la majorité, opposition et quoi que ce soit, que nous puissions seulement nous apaiser, car aucune opération ne se ferait clandestinement. Vraiment, nous rassurons cela, et moi-même je suis rassuré par rapport à ce que le ministre vient à peine de dire, et il y aura transparence ici. Mais alors, soyons seulement trop regardants et très observants par rapport à tout ce processus et à tous les niveaux. Alors, sauf, la CENI doit laisser les libres contrôles des citoyens, parce que jusqu'à la preuve du contraire, c'est sur les citoyens qui ont le droit de surveiller tous ces processus. Alors, il y a beaucoup de contraintes sur les aides qui suivent, entre autres contraintes sécuritaires, financières, logistiques, hein, mais il faut quand même surveiller par rapport, par exemple, à la contrainte sécuritaire. Bien sûr, le ministre porte-parole du gouvernement est là et il a tout les réservations par rapport à cela. Mais il est vrai qu'à l'est de la République, bien sûr, il y a cette déliquescence sécuritaire. Mais comme le gouvernement lui-même a raté, je pense que la tenue des élections aura toutes les tendances de la République. Par rapport à la contrainte financière, par exemple.
Voilà, Tagamile, on va poursuivre la dose d'auditeurs en ligne, mais on a compris, vous demandez à tous les Congolais de faire confiance au gouvernement et à la CENI, les élections auront bel et bien lieu et à la CENI de bien faire son travail, ou également au gouvernement de continuer à mener tous les efforts qu'il faut, notamment sur ce qui est du financement et de la sécurisation du processus électoral encore. Merci Tagamile depuis Bounia. On revient à vous. Monsieur le ministre, vous avez suivi les uns des autres. On a comme l'impression que c'est vrai, le tout dernier est confiant à ce que vous venez de dire et puis au gouvernement. Il a même parlé de l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, du gouvernement, de faire en sorte que les élections puissent avoir lieu. Mais le doute subsiste toujours encore par rapport au déroulement du processus même.
C'est le problème. On a toujours eu de doutes. Hein. On est tous des saint Thomas. Regardez les processus de 2006, regardez les processus surtout de 2011. À l'époque, j'étais conseiller à la primature. Il n'y avait que de doutes, mais les élections se sont tenues. Et au-delà de tout ça, cher Marcel, il faut qu'on comprenne. Et comme l'un des auditeurs l'a dit, que la bonne tenue des élections dépend de nous-mêmes. La qualité des élections dépendra aussi de notre attitude. Alors, nous, ces élections-là, on pense qu'on les fait pour qui ? Les élections ne sont pas faites pour le gouvernement ni pour le membre de la CENI. Les élections sont d'abord faites pour le peuple congolais, un moyen pour lui d'exprimer sa confiance envers les dirigeants. Je rappelais tout à l'heure le contexte dans lequel nous évoluons, les défis logistiques qu'impose notre pays. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des matériels électoraux sensibles, donc à savoir les machines qui ont déjà été prépositionnées dans les antennes. Allez vérifier. Tout ce que la CENI fait, peut-être qu'elle ne dit pas ou qu'elle ne communique pas suffisamment, c'est les sujets des conversations quotidiennes pratiquement que j'ai avec le président de la CENI. Parce qu'il faut faire davantage de ce point de vue-là. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui veulent pas les élections. Il y a des gens qui ont fait des choix de ne pas participer aux élections. D'autres qui n'en veulent pas. D'autres qui sont sceptiques et tous qui prennent la parole. Je dois observer avec vous, parce qu'il y a un auditeur qui a parlé, par exemple, de la liste définitive qui sera publiée à la veille des candidats présidents, qui sera publiée à la veille de la campagne électorale. Mais c'est la loi. Alors, si vous lisez le communiqué qui a suivi la publication de la liste provisoire des candidats au présidentiel, vous allez voir qu'il y a un paragraphe qui dit que le numéro attribué dans la liste provisoire serait de numéro définitif. Ça veut dire que comme le président Tshisekedi, c'est le numéro 20, quel que soit ce qui se passera au niveau de la CENI, dans l'hypothèse où le candidat 19 est écarté ou le candidat 21 est écarté, le président gardera le numéro 20.
Il n'y aura plus à recommencer
il n'y aura
à une
plus,
autre liste.
Il n'y aura plus d'autres numéros. Ça, c'est public. Alors, sur le processus électoral, au-delà de ce que nous pouvons écouter des uns des autres, mais je pense qu'il existe un site internet de la CENI, les communiqués de la CENI sont publics, nous devons faire un peu plus d'efforts pour aller lire et avoir l'information à la base. J'ai entendu notre compatriote Franck qui parlait de Vienne. Bon, je ne sais pas s'il est à Vienne en Autriche.
Il vit en Autriche, à Vienne.
Bon. Bon, il parle comme s'il était sur place. Bon, de toute
façon, c'est un des auditeurs fidèles de Radio Capi.
De toute façon, moi, je voudrais les rassurer. Parce que les inquiétudes, nous ne pouvons que les avoir. Par rapport à la complexité du processus, je ne reviens pas dessus. Mais ici, il faut considérer que nous sommes dans une dynamique évolutive. Et la grosse difficulté que nous avons, Marcel, c'est justement la construction de la confiance. Vous savez, malheureusement, dans notre classe politique, même lorsqu'on a des ambitions, des objectifs communs, on n'arrive pas à nous entendre. Mais nous voulons tous la même chose.
Mais ça prend combien de temps, Monsieur le Ministre, cette construction de la confiance? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui...
Mais ça vient avec les élections, ça vient avec la maturation. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des 17 ans. On est à la frontière de l'âge de la majorité parce que l'attitude des uns des autres et les discours que nous tenons est très déterminant. Beaucoup des choses que moi j'ai entendues ici, c'est des choses qui relèvent soit parfois parce qu'on n'est pas très très bien informé, parce que souvent on est aussi inondé des mauvaises informations, parce que nous-mêmes, ou peut-être par habitude, nous avons toujours développé un scepticisme par rapport à la date ou par rapport à la tenue des élections. Nous, nous venons, comme gouvernement, rassurer. D'abord, le président de la République a pris l'engagement de manière ferme. Il y a 6 mois, 1 année, les gens disaient la même chose. Et aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a des choses qui ont sensiblement évolué, notamment dans la tenue du calendrier. Aujourd'hui, on a la liste connue de tous les candidats, en attendant évidemment la sanction de la Cour qui va arriver. Mais vous voyez que c'est un pas déterminant. Aujourd'hui, le matériel se trouve dans les antennes. Alors peut-être que la CENI doit avoir alors faire des portes ouvertes avec les parties prenantes, les amener sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Mais même si on faisait cela, il y aura toujours de Jean-Marcel qui reviendront pour dire que nous nous doutons. Ah, ces machines-là sont dans les cartons. Ah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais parce que c'est ça aussi la complexité de la situation en RDC. Moi, je tiens plutôt à rassurer les différents compatriotes que dans la mission ou dans les missions du gouvernement, dans l'organisation des élections, qui sont les financements, la sécurisation, nous tiendrons nos objectifs. La question du financement, vous savez, les processus électoraux de 2011, on a fini d'apurer certains arriérés en 2018 ou 2019. Nous sommes un gouvernement, nous travaillons suivant une planification. La CENI, son travail ne s'arrête pas au 20 décembre. Le travail de la CENI continue, c'est une institution. Mais pourquoi il existe des banques? Mais parce que lorsqu'il y a des difficultés, on peut recourir à des crédits ou à des prêts. Je ne fonctionne pas dans les financements internes de la CENI, mais ici, je veux juste relever pour que nos compatriotes sachent qu'il n'y aura pas de problème de financement pour la tenue des élections dans les délais. On peut se plaindre qu'on n'a pas eu l'argent lundi, mais mercredi, on l'aura. Et observez que depuis les débuts du processus, on parle de cette difficulté des moyens, mais l'enrôlement s'est tenu, c'est terminé. Les autres géants sont tenus, sont terminés. Alors aujourd'hui, il faut plutôt que nous tous nous nous disons, le 20 décembre, ce sera un mercredi. Mais parce qu'il y avait justement cet impératif des tenues des délais, cet impératif de respect de la Constitution. Ça tombe mercredi et vous avez bien fait de répondre à ma place pour dire que mercredi sera une journée fériée. Et donc, aux États-Unis, je pense que le vote c'est mardi. Et donc, on peut pas considérer que le vote doit se faire absolument dimanche. Non.
Mais monsieur le ministre, vous craignez pas, parce qu'on dit souvent gouverner, c'est prévoir. Et puisqu'il s'agit du processus électoral avec des dates bien précises, par exemple là, il faut que les élections se tiennent le 20 décembre 2023. Et vous craignez pas que si les financements n'arrivaient pas dans...
Mais Marcel, le problème, monsieur le ministre. J'ai bien envie de vous dire qu'il faut considérer que le problème du financement a été réglé.
Ah, ça c'est bien dit.
Et que je souhaiterais que dans vos émissions prochaines, parce que c'est que j'observe, c'est que parfois les médias, de manière innocente, vous pouvez alimenter justement un certain scepticisme. Alors, c'est pour ça que moi j'inviterai encore la CENI, sûrement qui sera en train de m'écouter, qui fasse un peu davantage dans la communication avec les médias, pour que les médias s'informent, que ce soit sur les déploiements du matériel dans les antennes, que ce soit sur le processus de financement, c'est des fonds publics, ou sur les mécanismes qui sont mis en place, pour convaincre en tout cas ceux qui sont de bonne foi.
Parce que je reviens sur ce que j'avais dit en début, vous ne
pouvez pas compter sur la bonne foi de personne de mauvaise foi.
Bon, on va poursuivre avec Eric qui nous appelle depuis Goma et Ismaël qui est à Lubumbashi. Eric, bonjour. Eric, vous êtes en ligne depuis Goma?
Oui, je suis en ligne, je vous écoute.
Ah, vous avez... merci de nous rejoindre dans ces échanges citoyens. Eric, depuis Goma, vous avez suivi le ministre de la Communication et des Médias. Il n'y a plus vraiment à continuer à s'inquiéter, à continuer à douter du processus électoral en cours. Le gouvernement est en train de mettre tous les moyens, en tout cas de mettre tout en œuvre pour que ces élections puissent avoir lieu dans les délais constitutionnels. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
La question que moi je voulais poser, c'est à propos de la sécurisation, évidemment, des élections.
Oui.
Il y a quelques semaines, l'armée a alerté sur le fait qu'il y a quelques citoyens rwandais qui traversaient la frontière avec des cartes d'électeurs volées. Alors, de manière officielle, le gouvernement et la CENI n'avaient pas réagi sur des mécanismes mis en place pour éviter que ces citoyens qui ont pris des cartes abusivement puissent venir aussi participer au vote. Et puis, quelle est aussi la réaction du gouvernement face à cette alerte faite par l'armée? Mais également la question du départ de la MONUSCO. J'ai entendu le ministre parler de l'assistance logistique de la MONUSCO, mais de l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères aussi met la pression sur les retraits précipités de la MONUSCO. Est-ce que ce n'est pas une contradiction de compter à la fois sur la MONUSCO et de demander un retrait précipité? Et deux petites recommandations au ministre des Médias qui est en train de faire vraiment un grand travail, malgré qu'il est dans un gouvernement avec un bilan mitigé. C'est à propos des pré-campagnes faites par la RTNC. Pourquoi le ministre n'interdit pas les pré-campagnes faites par la RTNC? C'est visible, quand on le voit, c'est vraiment un pré-campagne fait en faveur du président de la République. Mais également, est-ce que c'est pas de la compétence du ministre de prévoir un débat contradictoire entre les candidats présidents? Voilà donc à la fois mes réactions et mes recommandations.
Voilà, merci Eric depuis Goma. On va aller à Lubumbashi pour écouter Ismaël. Et puis le tout dernier sera Thomas depuis Chikapa. Ismaël, bonjour, vous êtes à Lubumbashi. On vous écoute, Ismaël. Ismaël, vous êtes en ligne? Il me semble qu'il n'est plus en ligne, alors on va aller à Chikapa pour accorder la parole à Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Radio Capi, bonjour à son Excellence Monsieur le Ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement.
Bonjour.
En fait, Excellence Monsieur le Ministre, j'ai la joie de vous poser une question aujourd'hui. Excellence, je suis parmi les électeurs qui ont été enrôlés bonnement, qui ont obtenu leur carte d'électeur. Malheureusement pour moi,
Thomas, vous êtes toujours en ligne? Oh là là, désolé, Thomas n'est plus en ligne. Il voulait parler de ce qui est arrivé. Il a une carte d'électeur, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On a plus assez de temps pour, en tout cas, essayer de relancer Thomas. On va revenir peut-être une autre fois par rapport à cette question, à sa préoccupation. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez suivi Eric, également Ismaël, qui ont cherché à avoir quelques éclaircissements. Si vous êtes au courant de cette alerte qui a été donnée avec, semble-t-il, des sujets rwandais qui ont des cartes d'électeurs et qui vont voter, s'il aimerait savoir si vous êtes au courant. Et également, cette pression faite à la MONUSCO de partir à Orsay, que depuis toujours la MONUSCO, c'était le partenaire de la CENI pour ce qui est de l'organisation des élections. Alors, il a cherché à savoir, est-ce que vous pensez que la MONUSCO pourrait également, comme d'habitude, vous accompagner pour ce qui est du déploiement du matériel électoral?
Je dirais que la MONUSCO nous accompagne déjà. Je crois que je veux revenir sur cette question de la MONUSCO. Je crois que la préoccupation de Thomas portait justement sûrement sur la qualité de la carte, parce qu'il disait qu'il a obtenu sa carte. Et je crus comprendre dans la discussion avec le président Kadima que des dispositions seront prises, en tout cas avant les votes, pour que ceux qui ont des problèmes avec leur carte, ils puissent recouvrer des duplicata qui leur permettent de voter dans la sérénité. Et ça, nous devons nous assurer, parce que cette carte-là sera cruciale. Alors, sur la question de la MONUSCO, il n'y a pas de départ précis. Il n'y a pas de départ précipité, il n'y a pas de contradiction. Parce que la MONUSCO en République démocratique du Congo, sur base d'un mandat. Il vous souviendra, en septembre 2022, j'étais à New York, que le président de la République avait donné une échéance pour le départ de la MONUSCO qui était après la tenue des élections. Ça veut dire que toute la discussion que nous faisons ici, ce sera autour du départ de la MONUSCO, ce sera autour du retrait. D'ailleurs, je crois que ce soir, j'aurai un briefing avec le ministre des Affaires étrangères où nous reviendrons dessus. Ici, Marcel, il faut noter que le départ de la MONUSCO, nous les souhaitons parce que ça devait se terminer à un moment. Mais si départ a été précipité, parce que il y a aujourd'hui les Congolais qui sont censés bénéficier de l'appui de la sécurité de la MONUSCO qui se sentent plus en sécurité. Lorsque nous, gouvernement, nous avons une pression supplémentaire en termes de sécurisation du personnel de Nations Unies ou du matériel de Nations Unies, ce n'était pas prévu au départ. Et donc aujourd'hui, quelle est la perception Faites un sondage que les populations du Nord Kivu, de l'Ituri, ont de la MONUSCO. Il y a eu des manifestations qui ont conduit à des morts d'hommes. Nous, nous sommes un gouvernement à l'écoute, nous ne pouvions pas rester insensibles. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous travaillons sur un processus. Il y aura d'ailleurs une réunion cet après-midi entre mon collègue des Affaires étrangères et l'équipe de la MONUSCO pour discuter justement du programme technique qui permettra à la MONUSCO de partir. Mais c'est un processus normal qui devait arriver à un moment ou à un autre, parce que la MONUSCO n'a pas vocation à rester indéfiniment.
Mais sa question, ici, c'est de savoir également si la MONUSCO, comme toujours, va aider.
Mais bien sûr, je l'ai dit quand j'ai commencé à répondre. C'est-à-dire qu'il y a la MONUSCO aujourd'hui opère dans trois provinces. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Et pour les provinces où la MONUSCO opère, dans les cadres des jalons qui ont été retenus, parce que nous travaillions au départ sur 18 jalons, pour faciliter les départs de la MONUSCO, actuellement nous travaillons sur quatrième pilier qui est lié aux élections. Et de ces points de vue, dans les zones où la MONUSCO a des opérations, évidemment, on recourra à elle. Ici, et je tiens à les mentionner, lorsqu'Antonio Guterres, en septembre 2022, dit que la MONUSCO n'a pas des ressources pour affronter les M23. Les Congolais écoutent. Comment voulez-vous que le Congolais réagisse devant un tel aveu d'impuissance? Ce que nous souhaitons, c'est que les choses se passent de manière civilisée. Parce que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître le travail important fait par la MONUSCO pour la pacification de ces pays.
Ah, ça, c'est
ces
important
années.
De le souligner. Non,
je l'ai toujours dit. La MONUSCO, au départ, était, je pense, dans une dizaine ou 11 provinces. Mais aujourd'hui, elle est dans 3. Ça veut dire qu'il y a eu de progrès. Et c'est pour ça que même dans la communication, on travaille maintenant en synergie avec la MONUSCO, parce que nous constatons qu'il y a des composantes. Par exemple, des composantes civiles qui ont connu beaucoup de progrès et sur lesquelles on n'a pas beaucoup, évidemment, communiqué. Évidemment, la question sécuritaire vient en première. Mais tout n'était pas mauvais avec la MONUSCO. Aujourd'hui, par exemple, moi, ministre de la Communication, l'idée, c'est de discuter dans ces processus de transition sur la reprise de Radio Capi, voir quel statut on donnera à Radio Capi pour que vous continuiez justement à faire ce travail qui nous permet aujourd'hui de discuter avec des Congolais partout où ils se trouvent. On va évoluer sur la question...
Rapidement.
Sur la question des... Nous savons que les Rwandais interfèrent sur nos questions de politique interne. Il n'y a qu'à voir leur activisme sur les réseaux sociaux. Nous savons aussi que comme il n'y a pas de culture démocratique chez eux, ils ont un rêve, c'est de perturber notre processus électoral. Mais nous, comme gouvernement, nous en sommes conscients, nous y travaillons. Nous avons reçu des alertes, évidemment, sur l'arrivée des troupes rwandaises dans l'est de la RDC. Et même pour cela, nous prendrons des dispositions et ce ne sera pas sans conséquence. Donc ici, il faut considérer, parce que nous sommes en train de clôturer, que l'engagement démocratique pour la tenue des élections pris par le président de la République et le gouvernement sera tenu. Les difficultés sont inhérentes à tous les processus, mais nous invitons tous les acteurs autour de la CENI à travailler pour que ces difficultés puissent être surmontées et qu'en 20 décembre, nous puissions choisir nos dirigeants.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication des médias, nous vous disons merci d'avoir été de notre, en tout cas pour cet échange citoyen avec les auditeurs de Radio Capi.
C'est moi qui vous remercie.
On espère vous retrouver prochainement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur la page Facebook Parole aux auditeurs, mais aussi sur la chaîne YouTube Radio Capi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde de ce magazine, à Blaise Chindani qui l'a réalisé, coordonné au micro. C'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un autre numéro de votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous. Merci.